Donc, on va aller vers le message maintenant. Si vous voulez tourner dans... Ben, tournez pas, tiens. Je vais commencer ce message en faisant un bref retour sur le jeûne. On a fait une semaine de jeûne et prière et plusieurs personnes m'ont envoyé un courriel me donnant de l'information sur comment ils avaient vécu ça. Et un des objectifs qu'on s'était donné durant cette semaine-là, c'était d'aller visiter nos propres cœurs, nos propres attitudes devant Dieu. C'était l'idée, est-ce que Dieu pourrait nous mettre en lumière soi-même sur les zones où on ne se voit pas? Et donc, et ça a fonctionné, évidemment, mais je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, parce que je pense que ça appartient à chacun de ceux qui venaient ici, de se placer sous le regard de Dieu, sous cette lumière de l'Évangile. Mais je vais vous donner... Par contre, deux commentaires qui sont sortis énormément dans les commentaires que j'ai reçus. On a été agréablement surpris de voir à quel point ça a vraiment fonctionné. On s'était dit, on ouvre l'église à 5 heures le matin, c'est ouvert jusqu'à 9-10 heures le soir. Donc, on se dit, bon, je me dis, il y en a qui vont venir, c'est sûr. Mais vous êtes nombreux à être venus. Il y avait 10-12 personnes et plus à 5 heures le matin ici, à tous les matins. Et puis, il y en a qui partaient travailler, il y en a d'autres qui arrivaient sur le chiffre de 6 heures, puis il y en a qui arrivaient à 7 heures. Puis, ça restait comme ça. Il y avait toujours 10, 12, 15 personnes dans l'église. En tout cas, de ce que moi j'ai vu, je n'ai pas vu une fois dans la semaine qu'il n'y avait plus personne. C'est peut-être arrivé, mais je n'étais pas tout le temps là. Souvent, vers l'heure du souper, ça montait à 20, 25, 30. Le soir, les gens étaient plus disponibles. Donc, et ça s'est maintenu tout au long de la semaine. Et ce qui se passait ici, c'était presque curieux. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, c'est-à-dire rentrer ici. Puis il y avait du monde assis, un là-bas, deux là, un là. Tu sais, on s'assoyait comme chacun dans son coin avec sa Bible. Et puis, donc, c'était souvent ça qui se passait. Et puis, il y avait une espèce d'ambiance, on s'en parlait jeudi, il y avait comme une espèce d'ambiance de paix phénoménale ici. Moi, à un moment donné, je me disais, c'est vraiment le fun d'aller s'asseoir là. Je me disais, il faut que j'y retourne. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer cette affaire-là. C'est qu'on venait s'asseoir, on aurait dit que tous nos problèmes restaient dehors, puis on arrivait ici à se concentrer, puis à prendre du temps avec Dieu. Il se passait comme rien d'autre que ça. Il y a des moments où on se réunissait dans un petit coin, on partageait ensemble. Il y a d'autres moments où on priait ensemble. Mais dans la plupart du temps, on restait séparés. Les deux fruits de ça qui ont été beaucoup, beaucoup évoqués, en tout cas, tous ceux qui m'en ont parlé m'ont dit qu'il faut absolument refaire ça. Revivre des temps de tranquillité, redécouvrir ça, le silence, la tranquillité, la réflexion. Ça a été un bien-être pour beaucoup, beaucoup de gens. L'autre fruit majeur qui est revenu, puis je le voyais moi-même, c'est qu'il y a beaucoup qui ont dit qu'ils avaient comme été visités, ou pas visités, mais comme s'ils étaient rentrés en relation avec le corps de Christ. Il y a eu quelque chose du domaine de la communauté qui s'est passé. Il y a des gens qui étaient plus ou moins attachés à notre communauté depuis des années qui sont là, et ça s'est passé cette semaine-là, en étant ici. Puis pourtant, ils se disaient presque rien. Mais c'était de voir, je ne sais pas, c'était de voir les autres, de se faire juste un petit salut, on ne se parlait presque pas. Pourtant, il y a des choses qui se sont connectées dans cette semaine-là, une affection, une attirance, un désir d'être ensemble. Donc, c'est ça qui s'est passé en gros. Comme je vous disais, pour ce que sont les fruits plus personnels, ça appartient à chacun. On ne vous parlera pas de ce que chacun a vu de lui-même dans cette semaine-là. D'accord pour ça? Donc, évidemment, la demande, c'est est-ce qu'on va en refaire un autre éventuellement? Bien, c'est sûr que oui, peut-être probablement un genre d'événement annuel qui serait intéressant, permet de faire le vide. Donc, commençons le message qui est inspiré d'un texte que je vais lire tout à l'heure dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4. La semaine passée, j'avais parlé de la paix de Christ. Et Et cette semaine, j'intitulerai ce message « La paix qui surpasse toute intelligence ». Citation de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4. « C'est une paix, nous dit Paul, qui surpasse toute intelligence ». Et une partie de ce que je vais dire ce matin est inspirée d'un théologien que j'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui connaissent William Barclay ici? William Barclay, c'est un Écossais. Je ne sais pas s'il est encore vivant, ce monsieur-là. Mais c'est un théologien spécialiste des études du Nouveau Testament qui a étudié à Glasgow, en Écosse, et puis qui était pasteur également d'une église qui s'appelait Trinity quelque chose, et qui a écrit un commentaire biblique du Nouveau Testament. C'est quand même assez volumineux. Et puis, j'aime bien aller lire M. Barclay quand je m'intéresse à un texte. Donc, Philippiens 4, je m'intéresse aux commentaires de M. Barclay. Donc, tout ce qui nous arrive de désagréable n'était pas prévu dans nos vies. Donc, dites-moi, aviez-vous prévu que ça se passerait pas très bien? Pourtant, si on était moindrement observateur de ce qui se passe dans nos vies, mais dans notre historique passé et dans les gens autour de nous et l'historique général, on devrait normalement prévoir que ça risque de pas très bien se passer, puisque historiquement, ça s'est jamais tout à fait très bien passé. Donc, l'homme déchu est ainsi fait qu'il imagine sa vie et son avenir avec optimisme et croit que les malheurs sont surtout pour les autres. Et ça, c'est beaucoup nourri par les artistes et les penseurs positivistes de ce monde qui vont dire « crois le meilleur, crois en tes rêves », tu sais, qu'on nous pousse à croire que ça va marcher, finalement. Je me souviens d'une éloquente présentation de Serge Deslongchamps. Je ne sais pas si tu es là, Serge. Es-tu là, Serge? Pas là. Il y a 4-5 ans de ça au Forum des évangélistes, Serge, le flamboyant Serge, c'était très bon. Il avait partagé sur sa vie d'évangéliste, puis de comment il avait vécu ça quand il était jeune marié, puis qu'il a eu des enfants, puis ci, puis ça. Puis là, il commence à nous dire tous les rêves qu'il avait, qu'il marche avec Dieu, puis on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis il dit, il en avait des rêves, puis si vous connaissez Serge, il y en a, là, il est visiblement un gars vivant, et extrêmement vivant. Et là, il nous dit tout ça, puis à un moment donné, il arrête bien sec, puis il dit, ben il n'y a rien qui a marché. Il dit, ça n'a pas marché comme on pensait, mais tellement pas, puis là, il part là-dedans, en disant, hey. Et puis il nous dit ça avec un sourire, t'sais. Ça n'a pas marché, mais ça ne l'a pas rendu malheureux. Ça m'a toujours fasciné, le souvenir de cette présentation-là de Serge. Donc, effectivement, c'est vrai. Quoi que vous commenciez dans la vie, un nouveau projet de vie, un mariage, un nouvel business, des nouvelles études, un nouvel job, on n'est pas mindé à penser que ça pourrait être très ordinaire, plate et ennuyeux. Pour nous, là, vous avez une nouvelle job, là, vous avez hâte de rentrer ce matin-là. Mais dans 3 ans, là, vous allez juste avoir hâte à vos vacances. C'est pareil dans tout. La vie n'est pas fidèle à nos espoirs, aux espoirs qu'on enregistre. Donc, ce qui nous blesse le plus n'est pas que simplement les malheurs qui nous arrivent, ce ne sont pas seulement, pardon, je vais dire ça, c'est pas bon. Ce qui nous blesse le plus dans la vie, ce ne sont pas simplement les malheurs qui nous arrivent, mais surtout le fait qu'ils ne faisaient pas partie, ces malheurs, des attentes que nous avions imaginées. Donc, ce qui nous déçoit, c'est que ça ne marche pas comme on avait prévu. Mais ce qu'on avait prévu, c'est souvent de l'illusion. On est des êtres illusoires, vraiment. Quand je parlais tout à l'heure de la série du mercredi que je commence la semaine prochaine au sujet de l'athéisme, un des grands problèmes des 4 derniers siècles, c'est l'homme qui veut s'affranchir des mythes, et qui veut s'affranchir de la colère, de la violence de l'homme. Depuis le 18e siècle, on se parle de ça en Occident. Comment régler les problèmes? comment régler les problèmes politiques, les problèmes ethniques, les problèmes scientifiques, comment par la science, par la technique, par l'instruction, l'homme va s'affranchir de sa propre bêtise. Donc, c'est ça qu'on essaie de construire en Occident depuis 3-4 siècles. Et puis, le problème, c'est que ça ne fonctionne juste pas. C'est des attentes déçues, continuellement. C'est dans ça qu'on est. Donc, et on l'est également comme croyant, parce que comme croyant, on ajoute une couche d'espoir en plus à ça. On dit, hey, maintenant, je suis chrétien. Ça devrait être plus facile d'avoir des attentes qui vont me garantir un certain succès et une certaine vie. Donc, peu importe ce qu'on entreprend, ça risque de nous décevoir. C'est fatigant, hein, ça, se dire ça, des affaires de même. Tu sais, moi, quand je fais de la préparation au mariage, sachant que les violons et les petits oiseaux, ça dure une saison, peut-être deux, ben moi, je prépare les gens qui se marient à la réalité de l'après-violon puis l'après les oiseaux. Je dis, bon, voici ce que ça va être, une vie à deux. On bâtit un schéma de réflexion autour de la réalité, pas des illusions. Tu sais, ça m'arrive souvent de dire à des filles, t'es-tu sûr que tu veux marier ce gars-là? Il n'a pas l'air de savoir ce qui s'en va. Oui, mais je l'aime. Mauvaise réponse. Si c'est pas ce qui s'en va maintenant, là, il va te faire à croire que c'est ce qui s'en va, mais après, il va revenir à lui-même. C'est ça. C'est, on est qui on est. Malheureusement, par la grâce de Dieu, mais... Écoutez, si on ne peut pas se changer soi-même bien gros, on ne changera pas le monde non plus. Donc, on n'avait pas prévu que le mariage serait une aventure difficile, que travailler, comme disait la chanson, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. On peut la chanter si vous voulez. Pas moi qui va le faire. En tout cas, on n'avait pas prévu qu'on aurait des conflits avec des gens de nos familles. On n'avait pas prévu ça. C'est les endroits où il y a le plus grand nombre de blessures, là, c'est dans les lieux où on s'est aimé beaucoup. La famille, frères, sœurs, pères, mères, tu sais, les relations-là, là, quand ça déchire là, c'est là que ça fait le plus mal. Là où on s'aimerait le plus, c'est là qu'on risque de s'en vouloir le plus. Mais ça, on ne le prévoit pas. Tu sais, on se marie, on a des enfants, ils vont être en santé, ça va aller bien, puis il n'y aura pas de problème, puis ils vont faire ce qu'on dit, puis ils vont s'instruire, ils vont tous donner des bols, puis ils vont gagner leur vie, puis ils vont accepter Jésus, puis ils vont marcher avec lui, puis ils n'auront pas de problème, là. C'est ça qu'on fantasme. Donc, on n'a pas prévu qu'on pourrait faire un accident de voiture, on n'a pas prévu qu'on pourrait être malade, on n'a pas prévu... On ne prévoit pas ces choses-là. Peut-être tant mieux, parce que s'il fallait qu'on... semble, si tu vis juste dans la peur de tout ce qui peut arriver, ça doit porter un nom, cette maladie-là. As-tu un nom, ça? Comment on appelle ça? Non, hypochondriaque, c'est pas tout à fait... L'agoraphobie, non, c'est pas ça. C'est... la paranoïa. Mais bon, c'est peut-être des mécanismes qui nous protègent, là, de ne pas trop y penser. On n'avait pas prévu que, puisque nous sommes pécheurs, on ferait d'énormes bêtises soi-même. Ben, on n'a pas prévu ça. Parce qu'on a prévu qu'en donnant ma vie à Jésus, tout va aller bien. Les évangélistes le disent eux-mêmes. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'auras plus de problème. Jésus, lui, a dit, et Paul aussi, si vous marchez fidèlement avec Jésus, il y aura beaucoup de problèmes. Il dit exactement le contraire de ce que nous, on aime se dire. Donc, on aime ce qu'on pense, on aime se dire des choses qui nous plaisent, qui font marketing, c'est vendeur. Tu sais, dire à quelqu'un, tu n'auras plus jamais de problème avec Jésus. Ben oui, tu le veux-tu? Ben, mais-en que je le veux. Mensonge. Donc, on n'avait pas prévu que que puisque nous sommes pécheurs, on ferait d'énormes bêtises, là, je ne parle pas de celles des autres, les nôtres, que nous aurions de gros combats contre nos convoitises. Aviez-vous prévu ça, vous autres? Hein? Non, vous n'avez pas? Moi non plus. Bon, Donc que rien ou que beaucoup de choses ne se passeraient pas comme on l'avait imaginé. Vous savez, moi, je coach des gens, des hommes vers le pastorat. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est mon métier. Et des fois, tu vas arriver des gens, puis ils ont le fantasme de ce métier. Ils se disent, hey, faire ça dans la vie. Fait que j'ai dit à quelqu'un, il y a quelques années, qui voulait faire ça absolument, puis qui me disait que lui, ça allait marcher, son affaire, parce qu'il sait comment. Il a lu des livres de Tim Keller, comprenez-vous? Tu lis Tim Keller, puis tu le sais, là. Fait qu'il était assis dans mon bureau. J'ai dit... Puis c'est surtout, tu sais, quand quelqu'un te fantasme sa vision de l'avenir, que lui, ce ne sera pas pareil, il ne fera pas comme les églises qui sont déjà là, qui sont tournées vers elles-mêmes. Tu sais, toute l'accusation qu'on peut avoir sur les églises qui sont là depuis un bout de temps, faire voir tous leurs défauts, leurs faiblesses, puis dire, nous, on ne fera pas comme eux autres. Donc, j'ai dit... j'ai dit à 3-4 jeunes hommes, cette affaire-là, différents. J'ai dit, écoute, je ne suis pas prophète, mais je vais te prédire ton avenir quand même. Bon, là, tu es célibataire, fait que là, tu rêves. Tu es chrétien, tu vas avoir ta badge de pasteur, on va te confier une place, un quartier, puis là, tu vas commencer à travailler. À un moment donné, il y a une jeune fille qui va s'intéresser à toi parce que tu es un pasteur sérieux, c'est sûr. Tu fais une fille sérieuse. Vous allez vous marier. Et là, madame, elle va te dire de ralentir un petit peu. Parce qu'elle va te dire, chérie, t'es mariée, fais-le soir à la maison des fois, c'est bien beau l'église, mais quand même, tu sais, on est là, tu sais, j'existe. Fait que là, tu vas dire, OK, tu vas couper un peu dans tes projets excitants. Et là, il va arriver qu'à un moment donné, à force de trop t'occuper de ta femme et de bien t'en occuper, elle va tomber enceinte. C'est quand même... En tout cas, il y a un risque. C'est étonnant ce que l'amour peut faire. Alors, elle va tomber enceinte, un premier, et là, c'est-tu béni d'avoir un bébé? Écoutez, moi, c'est une affaire la plus phénoménale que j'ai vécue dans ma vie, c'est d'avoir des enfants, tu sais, de voir ça, là, tu sais. Il y en a un qui est justement là, là. Mais, non, c'est vraiment renversant. C'est la plus belle chose qu'on peut vivre dans la vie, je pense, d'avoir des enfants. Mais toujours est-il que, tu n'as un deuxième... Mettons un troisième. Puis mettons que tu restes dans un troisième étage d'un bloc. Ça nous est arrivé. Bébé a déboulé l'escalier à un moment donné. Il s'est ouvert le front. Un accident, bête. Ça arrive. T'en souviens-tu, Joanie? C'est Joanie qui le gardait, ça. C'était... On était dans un mariage à l'église. Moi, je suis le célébrant. La cérémonie, c'est commencé sur un téléphone, comme quoi le petit, c'est... bon. Fait que ma femme est allée, puis c'était... Mais il est encore vivant. C'est Michael, t'es où? T'es-tu là? Hein? OK, en tout cas, il n'y a plus de traces dans le front, je vois, ça n'a pas paru. Mais je suis cruel hein, de te rappeler ça quand même. Et là, madame te dit, écoute, mon chéri, c'est bien beau, l'église, puis tu sais, t'aimes ça, mais on pourrait-tu avoir une maison, tu sais, parce que là, c'est avec des enfants, fait que, bon, OK, on va acheter une maison. Fait que moi, je suis en train d'expliquer ça à des jeunes pasteurs, des fois, je regarde, elle va te demander une maison. Puis là, tu vas dire, méchante bonne idée, c'est vrai que je suis tanné de deux bébés, dans des escaliers, troisième étage, des commissions, trois étages, un paquet, trois étages de tout le temps, c'est quelque chose. T'achètes une maison. Fait qu'à un moment donné, tu as une maison, on va dire, bien, pose des clôtures, on a des bébés. Comme ça, on va dire, un patio, ce serait intéressant. Fait qu'à un moment donné, au bout du patio, une piscine, parce qu'il faut se rafraîchir. Fait que c'était intéressant d'avoir un jeune pasteur qui... J'ai dit, non, ça va t'arriver, là. C'est... Puis j'ai dit, tu vas même avoir une bédaine à un moment donné. Tu vas ralentir le rythme un peu. J'ai dit, et un jour, tu vas être assis dans un bureau, puis il y a un jeune pasteur qui va venir te voir, puis tu vas y raconter probablement un petit peu la même histoire. Fait que, welcome aboard, c'est ça. Donc, je ne suis pas du tout dans mon message. L'idée, c'est que, je veux simplement dire qu'il n'arrive pas ce qu'on avait prévu, il n'arrive pas ce qu'on imagine, il n'arrive pas exactement ce qu'on veut, mais il arrive plein de bonnes affaires. Et c'est ça, marcher avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'un croyant? C'est quelqu'un qui marche dans ce que Dieu a préparé d'avance. Parce que Dieu ne marchera pas dans ce que nous, on a imaginé d'avance. Il va nous amener dans ses voies et ce n'est pas lui qui va venir dans les nôtres. Donc, or, le défi du chrétien dans un monde déchu consiste non à essayer d'éviter le pire, mais à marcher avec Dieu même lorsque le pire se produit. Parce que on navigue entre les deux. Gloire à Dieu, le pire ne nous arrive pas tous, mais ça arrive à des gens. Ça arrive à des gens au milieu de nous, ça arrive pour toutes sortes de raisons qu'on ne contrôle pas. Et arrive ce moment où on va devoir saisir cette vérité fondamentale qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, ici, pas ceux qui aiment Dieu, dans le sens ceux qui ont des émotions pour Dieu. Ceux qui aiment Dieu étant les bien-aimés en qui Dieu a mis son amour et qui aiment Dieu dans le sens d'une appartenance à Jésus-Christ. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui a dit ça? L'apôtre Paul. Donc, tournons dans dans 2 Corinthiens 11, 23. Je ne commenterai pas ce texte-là, il ne se commente pas. Je veux juste faire voir que celui qui a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose, c'est aussi celui qui a vécu, à partir du verset 23, 2 Corinthiens 11, il va dire, « Sont-ils ministres de Christ? » Je parle en homme qui extravague, je le suis encore plus davantage par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. Aïe aïe. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait un naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les frères, donc en péril partout. J'ai été dans le travail et dans les peines, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc, celui qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, devait sans doute comprendre quelque chose qui nous échappe. Parce que ce qu'il semble être en train de dire, c'est que la paix qui habite un croyant ne dépendra certainement pas des circonstances. Parce que si ça avait été le cas pour Paul, écoutez, c'est décourageant, là. Écoutez, le nombre de choses. Écoutez, à la gang ici, là, on n'a pas tout vécu ce qu'il a vécu, je suis sûr. Qui a été... 40 coups moins un au moins 1 fois dans sa vie. Hein? Emprisonné. Tu sais, emprisonné pour l'Évangile, là, pour avoir fait un mauvais coup. Tu sais, battu de verge. Oui, ma mère, 1 fois, parce qu'elle était fâchée. Tu sais, dans le temps où tes parents étaient des parents, là, puis t'as, tu sais, bon, ça, OK, il y a au moins celle-là. Lapidé. Lapidé. Moi, j'ai déjà reçu une roche dans mon windshield de char une fois. Juste une d'un camion qui était en avant dans le parc des Laurentides. La roche, elle a passé à travers et elle s'est atterrie sur le banc à côté de là. J'ai regardé cette roche avec intensité pendant 5 minutes en me disant qu'elle aurait pu atterrir dans mon front également. J'ai rendu grâce à Dieu, vraiment. Donc, vous voyez un petit peu ce que j'essaie de dire. On en rigole, mais lui, là, Paul, il a vécu ça, là, pour de vrai. Et pourtant, il semble que rien de ça l'a rendu malheureux. Un peu plus loin, il va dire, « Nous sommes les gens les plus heureux. » Étonnant. Donc, on va tourner dans Philippiens. On va terminer avec ce texte-là. « Parce que Philippiens, c'est toujours le même monsieur qui parle, c'est toujours encore Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». En fait, tu dis pas « Attends une minute, tu t'es-tu réjoui, toi, à chaque fois que tu as été maltraité ?» En tout cas, on ne sait pas, mais on sait que justement, dans une prison à Philippe, je crois que c'est dans Actes 16, il avait été arrêté, battu de verge, mis en prison avec Silas, et il s'est réjoui, il s'est mis à chanter des cantiques. Fait que l'apôtre à Paul, c'est pas un menteur, c'est un homme qui instruit, et c'est pour ça que c'est important de comprendre que quand on enseigne la parole, ça me fait de plus en plus peur d'enseigner la parole, parce que je me dis, OK, on est responsable de ce qu'on dit. Il ne suffit pas de le dire pour que ça soit intéressant, il faut se demander si ça fait partie des choses qu'on est prêt à vivre aussi. Parce qu'on n'est pas juste des 10 heures de message, il faut l'incarner, ce message-là. Sinon, on est mieux de s'affirmer. Sinon, on fait juste répéter des choses. Donc, Paul va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Monsieur Barclay, lorsqu'il commande ce texte-là, la paix qui surpasse toute connaissance, il essaye de nous faire comprendre l'intention de Paul. C'est toute connaissance. Il va dire, on pourrait grossir le texte en disant toute connaissance d'homme. Il y a une paix qui appartient aux enfants de Dieu, qui est une paix que l'incroyant ne pourra jamais vivre. Mais ce qui est intéressant dans son commentaire, c'est qu'il dit on pourrait penser qu'elle est strictement surnaturelle, une infusion de paix. Oui, on a la paix avec Dieu, parce qu'on peut voir la paix à travers trois dimensions. On a d'abord la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce, Romains 5:1. Donc, la fin des hostilités avec Dieu a d'abord été faite par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes en paix avec Dieu, c'est Dieu qui a fait la paix avec nous. Nous avons obtenu la paix avec lui. C'est vraiment important d'être fondé là-dedans, comme Gabriel le disait tout à l'heure. Il faut être fondé dans ça, parce que toute la qualité de notre marche dépend de notre compréhension de cette grâce qui nous a été faite, d'avoir été rachetée. Mais pas seulement ça, on est en paix avec lui, mais on est tellement en paix avec lui qu'il nous a fait ses enfants. Là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. On est devenus des enfants de Dieu par adoption. C'est très, très sécurisé là, comme position avec lui. Donc, il y a la paix dans cette dimension-là. Il y a cette paix ici qui est celle que la première devrait produire dans nos vies, puisqu'on a été adopté par le Père et que notre destinée éternelle est réglée, puis puisqu'on est gracié, puis on est appelé par lui, on est aimé de lui, ça devrait produire une paix, une tranquillité ici. Donc, on arrête de s'énerver. Et c'est pour ça que je disais au début, un croyant, c'est quelqu'un qui ne veut pas éviter le pire. Ça ne s'évite pas. Mais qui va être capable de traverser le pire avec Dieu, pas à cause de ce qu'il est, mais à cause de celui en qui il a cru. Donc, ça vient rassurer, puisque ces choses-là vont arriver. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, c'est une paix qui surpasse toute forme de connaissance humaine normale. Mais il va dire, elle n'est pas nécessairement strictement surnaturelle. Elle est le fruit de ce qu'on a cru, cette paix-là. Donc, on a cru. Donc, si on a cru, on a reçu cette... Et on adhère, nous, on adhère à cette idée. Et elle produit cette idée, une paix dans nos cœurs. Et si ça, c'est bien vécu, ça nous amène, troisièmement, à être en paix avec les gens. Forcément. Si on a la paix avec Dieu, on lui fait confiance et ça crée une paix dans nos vies. On est capable d'être en paix avec tous les hommes, autant que cela, nous dit Paul ailleurs, autant que ça dépend de nous. On peut être en paix avec les gens. Donc, paix à trois niveaux. Mais regardez bien. Au reste, frère, verset 8, c'est vraiment béni. C'est encore là M. Bartley qui nous fait réfléchir là-dessus. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça ne vous rendra pas plus juste. Vous êtes déjà juste. En Jésus-Christ, devant Dieu, vous êtes déjà justifié. Le but d'avoir de la rigueur ici, parce que c'est de rigueur dont on parle ici, c'est pas pour devenir des justes, mais c'est pour vivre dans la paix de Christ. Vous voyez comment ça se termine. Ce que vous avez appris, quatre choses. Vous avez appris, reçu, entendu et ce que vous avez vu. Appris, reçu, entendu, vu de moi, pratiquez-le. Donc, Paul est en train de dire que ces choses, cette discipline de vie faisait partie de sa vie. Mais voyez la promesse qui nous est donnée. Il dit, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Je ne sais pas si vous réalisez. Vous dites, oui, mais il est déjà avec moi. Là. Je conclurai en vous disant qu'on est dans un monde évangélique qui règle tout à coup de miracle. On est dans une fabulation étrange. On se dit, je peux être négligent, je peux être pas trop là, spirituellement pas trop allumé. Vous savez, on essaie de donner, mettons, comme Église, des moyens d'aller plus loin, des cours, de dire, hey, mettez-vous à part pour ça, réservez, tassez des affaires, réservez-vous pour ça. Mais on peut négliger tout ça. On néglige notre relation, on néglige notre Église, on néglige de pardonner des gens, on néglige tout. Puis quand ça va bien, bien mal, on va à Dieu et on dit, Seigneur, fais un miracle. Et ça n'arrive pas. Et c'est là que M. Bartley dit, parce que la paix de Dieu qui nous habite n'est pas nécessairement le fruit d'un miracle, mais le fruit d'un processus, ce qui rentre dans mes pensées. Il dit, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, ce sont ces choses qui devraient être l'objet de notre réflexion. Je veux juste vous encourager à vous dire, ah, c'est bien trop tough faire tout ça. Commencez tranquillement. J'ai souvent aidé des gens, les accompagner dans une cure d'âme pour dire, fais juste commencer tranquillement à prendre du temps avec le Seigneur chaque matin. Commencez à méditer, commencez à réfléchir, se battre, commencez à couper des mauvaises affaires. On a des taouins dans nos vies là, qu'on n'a pas besoin. Mauvaise compagnie qui rompt les bonnes mœurs, tasse ça de ta vie. Commencez à juste ramener nos vies au centre de l'Évangile pour que nos pensées soient occupées aux choses qui sont utiles. Ça ne nous rendra pas plus justes. On est juste. Mais ça va peut-être nous rendre plus paisibles. Ça va peut-être organiser une vie chrétienne qui a du bon sens. On va commencer à avoir les idées claires pour savoir exactement où on s'en va. En conclusion de quoi? Ce qui fait que ça fonctionne ou pas, nous disait M. Bartley, il y a quatre conditions. Quatre. Je me trompe toujours de nombre de doigts. Ma femme me le dit. Il dit, pour pouvoir entrer dans une paix avec Dieu, une paix expérimentée, il dit, il faut être certain que Dieu nous aime malgré ce qui arrive. Que Dieu est toute sagesse malgré ce qui nous arrive. Que Dieu est tout-puissant malgré ce qui nous arrive. Et que Dieu est parfaitement souverain malgré tout ce qui nous arrive. Amen. Merci, Père, de bénir abondamment ta parole aujourd'hui. Seigneur, c'est notre prière ensemble ce matin. Que tu puisses éveiller spirituellement nos cœurs, nos pensées. Seigneur, on est à ce point paresseux spirituellement. Alors, on te supplie, Seigneur, d'éveiller nos cœurs, nos consciences. Éveille notre besoin de toi, notre besoin de ta parole. Merci, Père, de bénir chaque personne ici aujourd'hui. Merci de mettre en lumière. Merci de conduire à la repentance. Merci de conduire au relèvement, de conduire à la vie, de conduire à la paix. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, on vous demande de rester un peu. Michel va venir nous parler.